Une fois assuré que sa mère dormait, Tim traversa le vestibule pour gagner le réduit où se trouvait la malle du grand Kells, dont la masse trapue était dissimulée par une vieille couverture. Quand il avait dit au collecteur qu'il ne se trouvait que deux serrures à l'arbre, l'autre lui avait répondu « Ah, je crois que tu en connais une autre. » Il retira la couverture et considéra la malle de son beau pas. Cette malle qu'il caressait parfois comme un vieux chien fidèle, sur laquelle il s'asseyait souvent le soir pour fumer la pipe, laissant ouverte la porte de derrière pour faire sortir la fumée. Tim courut vers le perron, il était resté en chaussettes pour ne pas réveiller sa mère, et jeta un coup d'œil au dehors. La cour était déserte et il n'y avait aucun signe du grand Kells à proximité. Cela ne l'étonnait pas. Kells devait être arrivé au saloon où il viderait sa bourse jusqu'à tomber ivre-mort.
« J'espère que quelqu'un lui filera une raclée, ça lui apprendra à vivre. Je le ferais moi-même si j'étais assez grand. »
Il revint devant la malle, toujours à pas de loup, s'agenouilla et sortit la clé de sa poche. C'était un minuscule objet, pas plus gros qu'une demi-barrette, qui dégageait une étrange chaleur, comme s'il était vivant. Le trou de la serrure en cuivre de la malle était beaucoup plus grand.
« Jamais cette clé ne l'ouvrira, » se dit Tim.
Puis il se rappela ce que lui avait dit le collecteur.
« C'est une clé magique. Elle ouvre toutes choses, mais une seule fois. »
Tim inséra la clé dans la serrure et l'entendit cliqueter comme si elle avait trouvé sa place. Lorsqu'il la tourna, elle se laissa faire sans résister, mais perdit la chaleur qu'elle dégageait. Il ne tenait plus entre ses doigts qu'un bout de métal froid.
« Ensuite ?» Elle te sera aussi inutile qu'un tas de poussière,
murmura-t-il. Puis il jeta autour de lui des regards affolés, persuadé qu'il allait découvrir le grand Kells, les poings serrés et les yeux furibonds. Comme il n'y avait personne, il déboucla les lanières et leva le couvercle. Il grimaça en entendant grincer les charnières et risqua un nouveau regard par-dessus son épaule. Son cœur battait à tout rompre. Et en dépit de la fraîcheur de cette soirée pluvieuse, il sentait son front se couvrir de sueur. Il vit tout d'abord des chemises et des culottes empilées en vrac, déchirées pour la plupart. Avec un ressentiment nouveau pour lui, il se dit
« C'est ma mama qui devra les laver, les ravauder et les plier quand il lui en donnera l'ordre. Et comment la remerciera-t-il, d'un bleu sur le bras ou d'une bosse sur le front ?»
Il sortit les vêtements et comprit pourquoi la malle était si lourde. Le père de Kells était surnommé « Maigre-Scie » en raison de son gabarit et de sa scie de charpentier, et c'était ses outils qu'il avait sous les yeux. Tim n'avait pas besoin d'un adulte pour se faire une idée de leur valeur, car ils étaient en métal.
« Il aurait pu les vendre pour payer la taxe, il s'en sert jamais !» Il sait même pas s'en servir, je le parierais. Il aurait pu les vendre à un artisan, à Gertie le Clou, par exemple, et payer la taxe sans même se ruiner.
Il existait un mot pour qualifier ce qu'il était, et Tim l'avait appris de la veuve Smack, le mot grigou. Il tenta de soulever la boîte à outils, mais n'y parvint pas. Elle était bien trop lourde pour lui. Tim attrapa les marteaux, les tournevis et la futoire qu'il posa sur les vêtements. Ensuite, il souleva la boîte sans trop de difficulté. Elle dissimulait 5 fers de hache qui auraient plongé le grand Ross dans l'étonnement et le dégoût. Leur précieux acier était piqueté de rouille et Tim n'avait pas besoin d'éprouver leur fil pour savoir qu'il était émoussé. S'il arrivait au nouvel époux de Nell déguisé la hache qui ne le quittait jamais, cela faisait belle lurette qu'il n'avait pas touché à ses fers. Le jour où il en aurait besoin, il serait probablement inutilisable. Logé dans un coin de la malle, il aperçut un petit sac en daim et un objet enveloppé dans une peau de chamois. Il prit ce dernier, le déballa et découvrit l'image d'une femme au visage doux et souriant. Une masse de cheveux noirs cascadait sur ses épaules. Tim ne se rappelait rien de Millicent Kells. Il n'avait que 3 ou 4 ans lorsqu'elle était entrée dans la clairière où nous finissons tous par nous rassembler. Mais il la reconnut quand même. Il remballa le portrait, le remit en place et attrapa le sac. En le palpant, il conclut qu'il contenait sans doute un seul objet, petit mais assez lourd. Il défit le nœud qui le fermait et le pencha. Il y eut un coup de tonnerre. Tim sursauta et le petit objet caché tout au fond de la malle de Kells chut au creux de sa main. C'était la pièce porte-bonheur de son père. Tim remit tout en place, excepté ce qui appartenait à son père, rangeant la boîte à outils, replaçant les outils qu'il en avait sortis pour la soulever, puis fourrant les vêtements à la va-vite. Il reboucla les lanières. Mais lorsqu'il voulut tourner la clé d'argent dans la serrure, il n'entendit aucun cliquetis. Aussi inutile qu'un tas de poussière. Tim n'insista pas et remit la vieille couverture sur la malle, la disposant de façon à ne laisser aucune trace de son effraction. Sage précaution. Il voyait souvent son nouveau beau-père caresser la malle et s'asseoir dessus, mais il était rare qu'il l'ouvre, et il ne le faisait que pour attraper son affutoir. Quelque temps s'écoulerait sans doute avant qu'il ne remarque le vol, mais Tim était trop avisé pour croire que celui-ci passerait éternellement inaperçu. Viendrait un jour, pas avant le mois prochain peut-être, mais plus probablement la semaine prochaine, voire le lendemain, où le grand Kells aurait besoin de son affutoir. À moins qu'il ne se rappelle qu'il avait des habits de rechange dans cette malle. Il découvrirait qu'elle n'était plus fermée et irait droit au sac et il constaterait que la pièce avait disparu. Et ensuite ? Ensuite ? Sa nouvelle femme et son nouveau beau-fils auraient droit à une raclée, et il n'irait pas de main morte. Tim était terrifié à cette idée, mais en voyant la pièce rouge dorée pendant à sa chaîne d'argent, il était aussi furieux, vraiment furieux, et pour la première fois de son existence. Ce n'était pas une colère d'enfant qui l'animait, mais le juste courroux d'un adulte. Il avait demandé au vieux d'Estrie ce que les dragons infligeaient à leurs victimes. Est-ce que celle-ci souffrait beaucoup? Est-ce qu'il en restait, eh bien, des morceaux? Percevant sa détresse, le fermier lui avait passé un bras autour des épaules.
La réponse est non et non, mon gars. Il n'y a pas plus brûlant que le feu d'un dragon. Et il est aussi brûlant que la roche liquide qui coule parfois des failles de la terre, là-bas dans le sud. C'est du moins ce que disent les contes. Il suffit d'une seconde pour qu'un homme pris dans le feu du dragon soit réduit en cendres, ainsi que ses habits, ses bottes et sa ceinture. Alors si tu veux savoir si ton pas a souffert, tu peux dormir tranquille. En un instant, tout était fini.
Ses habits, ses bottes et sa ceinture. Sauf que la pièce porte-bonheur de pas était intacte, sans même une trace de fumée, et qu'on pouvait en dire autant de la chaîne en argent. Pourtant, il ne l'ôtait jamais, même pour dormir. Alors, qu'était-il arrivé au grand Jack Ross? Et que faisait cette pièce dans la malle de Kells? Tim avait sa petite idée, une idée horrible, et il croyait savoir qui serait en mesure de lui dire si c'était la bonne. Mais il lui faudrait beaucoup de courage.
Viens la nuit, car le misérable que je suis aime faire la sieste dans la journée quand il le peut.
Il faisait presque nuit à présent. Sa mère dormait toujours. Tim posa son ardoise tout près d'elle. Il y avait écrit « Je reviendrai, ne t'inquiète pas pour moi ». Évidemment, un petit garçon est incapable de comprendre à quel point une telle recommandation est vaine quand on l'adresse à une mère. Tim se garda de toucher aux mules de Kells, trop irascibles à son goût. L'exact contraire des deux bêtes que son père avait élevées lui-même. Misty et Bitsy étaient des femelles, capables en théorie de procréer, Mais si Ross avait choisi de ne pas les stériliser, c'était uniquement pour les garder d'humeur égale. Non, elles n'auront jamais de petits mulets, avait-il dit à Tim quand il avait eu l'âge de poser la question. Des bêtes comme elles ne sont pas faites pour ça, et quand elles mettent bas, il est rare que le résultat soit de bonne aloi. Tim choisit Bitsy, sa préférée depuis toujours, la mena jusqu'au portail par la bride, puis l'enfourcha à cru. La première fois que son pas l'avait juché sur cette monture, ses pieds lui battaient les flancs, mais aujourd'hui, il touchait presque terre. Bitsy commença par avancer sans entrain, mais lorsque le tonnerre s'éloigna et que la pluie s'atténua, elle releva un peu les oreilles. Elle n'avait pas l'habitude de sortir la nuit, mais comme Misty et elle restaient trop souvent enfermées depuis la mort du grand Ross, elle semblait impatiente de...
Peut-être qu'il n'est pas mort ?
Cette idée explosa dans l'esprit de Tim comme une fusée de feu d'artifice, et il se sentit un instant plein d'espoir. Peut-être que le grand Ross était toujours vivant et errait quelque part dans la forêt sans fin.
Ouais, et peut-être que la lune est une meule de fromage, comme me le racontait Mama quand j'étais tout petit.
Mort. Il le savait au fond de son cœur, tout comme il l'aurait su si le grand Ross était en vie.
Mama l'aurait su, elle aussi. Elle l'aurait su au fond de son cœur, et jamais elle n'aurait épousé cette brute.
Bitsy dressa les oreilles. Il venait de passer devant la maison de la veuve Smack, sise à l'extrémité de la grande rue, et l'odeur de forêt se faisait plus forte. L'arôme léger et épicé des florus. Le fumet plus lourd, plus soutenu des arbres de fer. S'engager tout seul sur la piste quand on avait son âge et qu'on ne possédait rien pour se défendre, même pas une hache, c'était de la folie pure. Tim le savait, mais il poursuivit sa route.
« Cette brute épaisse !»
Cette fois-ci, il parla d'une voix si basse qu'on aurait dit un grondement. Bitsy connaissait le chemin et n'hésita pas un instant lorsque la route de l'arbre se rétrécit au niveau des bosquets de Florus. Pas plus que lorsqu'elle déboucha sur les premiers arbres de fer. Mais en arrivant dans la forêt sans fin proprement dite, Tim fit halte le temps d'attraper dans son sac la lampe à pétrole qu'il avait prise dans la grange. Le petit réservoir de fer blanc enchâssé dans sa base était plein, ce qui lui garantissait une heure de lumière. Deux s'il en usait avec parcimonie. Il craqua une allumette sur son ongle, un truc que son pas lui avait appris. Tourna la molette au-dessus du réservoir et inséra l'allumette dans la petite fente qu'on appelait « porte-Marie ». Une lueur blanc-bleu entra en éclosion. Tim leva la lampe et poussa un hoquet de surprise. Il était souvent venu dans ce coin avec son père, mais jamais durant la nuit. Et ce qu'il vit était si impressionnant qu'il envisagea de faire demi-tour. Comme on était relativement près de la civilisation, il ne restait plus que des souches des plus beaux arbres de fer, mais ceux qui subsistaient apparaissaient comme des colosses comparés au petit garçon sur sa mule. Aussi raides, aussi solennel que des anciens manis lors d'une cérémonie funèbre. Tim en avait vu dans un des livres de la veuve Smack. Il se dressait bien au-delà du fragile globe de lumière qui entourait sa misérable lampe. Leur tronc était parfaitement lisse sur une hauteur de 40 pieds. Ensuite, leurs branches se tendaient vers le ciel comme des bras implorants, projetant sur la piste étroite des ombres en toile d'araignée. Il était possible de progresser entre ces arbres, qui à ce niveau n'étaient guère plus que de grands poteaux noirs. Mais il était également possible de se couper la gorge avec une pierre bien affûtée. L'étourdi, qui s'éloignait de la piste du bois de fer, ou qui poursuivait après sa fin, ne tarderait pas à se perdre dans un véritable dédale où il risquait de mourir de faim. S'il ne se faisait pas dévorer avant, bien entendu. Comme pour lui rappeler ce danger, un sinistre gloussement monta des ténèbres. Tim se demanda ce qu'il faisait là, alors qu'un lit bien chaud avec des draps propres l'attendait dans le cottage où il avait grandi. Puis il toucha la pièce porte-bonheur de son père, désormais pendue à son cou, et sa résolution se raffermit. Bitsy regardait autour d'elle comme pour lui demander
« Eh bien, où on va ? On avance ou on recule ? C'est toi le patron, tu sais ?»
Tim doutait d'avoir le courage d'éteindre la lampe. Mais il serra les dents et bientôt se retrouva dans l'obscurité. S'il ne voyait plus les arbres de fer, il les sentait qui se massaient tout autour. Mais quand même, en avant. Il pressa les flancs de Bitsy, fit claquer sa langue et Bitsy se remit en route. À en juger par la régularité de son allure, elle foulait l'ornière creusée à droite de la piste. Et à en juger par sa placidité, elle ne sentait aucun danger à proximité. Du moins, pas encore. Et puis, réflexion faite, qu'est-ce qu'une mule savait du danger ? C'était lui qui était censé l'en protéger. C'était lui le patron, après tout.
« Oh, Bitsy, si tu savais... »
Où était-il arrivé ? Devait-il encore poursuivre ? Jusqu'où irait-il avant de renoncer à cette folie ? Sa mère n'avait plus personne au monde excepté lui, alors jusqu'où irait-il ? Il avait l'impression d'avoir parcouru 10 roues, voire davantage, depuis qu'il avait laissé derrière lui le parfum des Florus. Mais il savait que c'était faux. Tout comme il savait que les bruissements dans les branches étaient l'œuvre du vent de la terre vide et non d'une bête qui le traquait, la gueule béante, salivant déjà à l'idée de le dévorer pour son dîner. Il le savait pertinemment. Alors pourquoi ce vent lui faisait-il l'effet d'un souffle ?
« Je compte jusqu'à 100 et ensuite demi-tour », se dit-il.
Mais lorsqu'il arriva à 100 sans que rien n'ait bougé dans les ténèbres absolues qui l'entouraient, hormis lui-même et sa brave petite mule.
« Sans oublier la bête qui nous suit et qui se rapproche sans répit »,
ajouta une partie moqueuse de son esprit. Il décida d'aller jusqu'à 200. Arrivé à 187, il entendit une branche craquer. Il alluma la lampe, la leva bien haut et regarda alentour. Les ombres menaçantes semblèrent se déployer puis bondir sur lui. Et vit-il quelque chose battre en retraite face à la lumière ? Aperçut-il l'éclat d'un œil rouge ? Sûrement pas, mais... Tim siffla entre ses dents, éteignit la lampe pour économiser le pétrole et fit claquer sa langue. Il dut s'y prendre à 2 fois. Bitsy de Placide devenait un peu nerveuse, mais sage et obéissante comme elle l'était, elle exécuta l'ordre qu'on lui donnait et se remit en marche. Tim se remit à compter et ne tarda pas à atteindre 200.
« Maintenant, je vais faire un compte à rebours, et si je ne l'ai pas vu à 0, je ferai demi-tour. »
Il était arrivé à 19 lorsqu'il décerna une lueur rouge-orangée devant lui et sur sa gauche. C'était un feu de camp et il était sûr de savoir qui l'avait allumé.
« La bête qui me traque ne me suit pas, » songea-t-il. « Elle m'attend. Cette lueur est celle d'un feu de camp, mais c'est aussi celle d'un œil rouge. Je devrais faire demi-tour pendant qu'il est encore temps. »
Puis il toucha la pièce porte-bonheur de son père et avança.